Europe Midi, Romain Desarbres.
Europe Midi, midi 30, pile, ravi de vous retrouver comme tous les jours pour votre grand rendez-vous d'actualité de la mi-journée sur Europe 1. On sera dans quelques secondes avec Elisabeth Bouvet de la Haute Autorité de Santé. La troisième dose de vaccin, c'est parti. C'est pour quand? C'est pour qui exactement? Des annonces à suivre. Un Afghan accueilli par la France, placé en garde à vue, il n'a pas respecté les conditions imposées par nos services de renseignement. Nos informations dans un instant. On verra aussi comment sont surveillés ces Afghans suspectés d'avoir collaboré avec les talibans. Et puis la note pourrait grimper, la facture pourrait grimper quand on va faire nos courses. À qui faut-il et à quoi faut-il s'attendre? On sera en direct avec le président de Système U, Dominique Schellcher, dans Europe Midi.
Europe 1.
La troisième dose, c'est donc officiel. On est en direct avec l'infectiologue Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique de la Haute Autorité de Santé. Bonjour Elisabeth Bouvet. Merci
Bonjour.
D'avoir choisi Europe Midi pour parler. Qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé recommande exactement concernant cette troisième dose de vaccin?
Alors, à ce stade, la Haute Autorité de Santé propose, elle ne recommande pas formellement, elle propose sur la base de données qui sont assez convergentes, mais qui sont encore qui méritent encore d'être confirmées pour certaines d'entre elles. Donc elle propose d'envisager donc de faire un rappel de vaccination pour les personnes qui ont plus de 65 ans et pour les personnes qui ont des facteurs de risque, des causes qu'on appelle les comorbidités, qui augmentent le risque de faire des formes graves, et ceci donc pour les protéger mieux de ces formes graves, que ce soit les personnes de plus de 65 ans ou que ce soit les personnes atteintes de comorbidité. Ce rappel est destiné à les protéger mieux dans les mois qui viennent.
Vous précisez que vous proposez, vous recommandez pas. Pourquoi? Parce que après, c'est au gouvernement de vous suivre ou pas, c'est ça?
À la fois, c'est au gouvernement de suivre et à la fois, nous avons besoin, pour faire cette recommandation de rappel, que l'Agence européenne du médicament valide la possibilité de faire une troisième dose de vaccin. Pour l'instant, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché a été donnée pour une vaccination avec deux doses. Et cette troisième dose mérite donc des vérifications, si vous voulez, surtout en termes de tolérance et de vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier lié à cette troisième dose. Donc l'agence européenne ne rendra son avis que dans quelques semaines sur ce point.
Je pense aux personnes de plus de 65 ans qui écoutent Europe Midi et qui vous écoutent, Elisabeth Bouvet. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Se rapprocher de leur médecin? Demander conseil?
Oui, enfin, si vous voulez, il faut qu'elles se préparent. Moi, je dirais à savoir que vraisemblablement, elles auront une troisième dose à recevoir, que ceci devrait se passer de façon assez simple, puisqu'on va essayer de le couplé avec la vaccination contre la grippe. Et donc, ce sont des personnes qui, de manière générale, sont vaccinées tous les ans contre la grippe. Et donc, au moment où on leur fera la vaccination grippale, eh bien, on pourra aussi leur faire la vaccination, le rappel de vaccination Covid.
Ça veut dire qu'il y aurait deux piqûres?
Voilà, deux piqûres, oui.
Il y aurait deux piqûres. Qu'est-ce que vous proposez comme délai entre deux vaccins? Pour les personnes de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidité qui se sont faites vacciner pendant l'été ou avant l'été?
Alors, par rapport à la vaccination initiale, il faut attendre un minimum de 6 mois. Hein, on considère qu'il faut 6 mois pour considérer que c'est effectivement un rappel et qu'on a obtenu l'immunité que l'on pouvait avoir avec les deux doses. Donc, le rappel se fait à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois après la primo-vaccination complète.
La Haute Autorité de Santé annonce donc dans Europe Midi sur Europe 1 qu'elle propose une troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidité. Merci Elisabeth Bouvet. Tiens, restez avec nous quelques instants. J'aimerais vous faire écouter ce médecin, le docteur Jacques Franzoni. Il travaille dans un centre de vaccination à Valenciennes. Et si la plupart des Français se font vacciner de bon cœur, certains le font par contrainte pour obtenir le pass sanitaire. Ça crée des tensions dans les centres de vaccination. On écoute ensemble le docteur Jacques Franzoni.
Il y a des insultes, les soignants qui sont traités de gardiens de zoo, de tous les noms d'oiseaux qu'on peut connaître, vendus à Big Pharma. Il y a des menaces aussi. On a de tout, on a des anti-vax, on a des anti-pass, même si les gens ne l'expriment pas en arrivant parce qu'ils ont quand même besoin de ce QR code pour pouvoir accéder à ce qu'ils souhaitent. On se retrouve dans des situations ubuesques où les gens proposent de l'argent pour ne pas être vaccinés. Des sommes d'argent qui varient de 300 jusqu'à 1000 euros pour injecter le produit dans une compresse et donner le pass sanitaire aux patients non vaccinés.
Elisabeth Bouvet, vous avez entendu ce que dit ce médecin.
Oui.
Voilà comment ça se passe dans certains centres, notamment à Valenciennes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Mais je crois qu'il faut continuer à expliquer aux gens, et notamment à ceux à qui on propose la vaccination, qui, à mon avis, ne sont pas ceux qui font partie des populations dites les plus à risque, qui elles-mêmes se font vacciner avec beaucoup plus qui sont beaucoup plus d'accord pour se faire vacciner, qui y vont plus facilement. Mais les personnes qui sont dans cette situation-là, je pense qu'il faut quand même leur faire comprendre qu'il est très important que la plus possible de personnes soient vaccinées pour limiter au mieux l'impact de la vaccination. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut leur donner qui leur montreraient que le fait de refuser la vaccination, comme on l'a observé récemment dans certains territoires, c'est-à-dire que la proportion de gens vaccinés est insuffisant, va permettre au virus de se développer beaucoup plus et va permettre aussi de provoquer de nouvelles vagues épidémiques. Donc, je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'il fait partie d'une chaîne de transmission et qu'il joue un rôle négatif ou positif selon son acceptabilité de la vaccination.
Merci beaucoup Elisabeth Bouvet, infectiologue, présidente de la commission technique de la Haute Autorité de Santé, d'avoir choisi Europe Midi pour parler. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
C'est une information qui vous fait beaucoup réagir. Évidemment, le placement en garde à vue de l'un des 5 Afghans accueillis par la France est placé sous la surveillance des services de renseignement. Il a été arrêté car il a quitté la ville de Noisy-le-Grand, près de Paris, ce qui lui était interdit. Gladys Laffitte, du service police-justice d'Europe 1, dites-nous déjà, qui est cet Afghan qui est en garde à vue ?
Eh bien, il fait partie de l'entourage de l'homme soupçonné d'être en lien avec les talibans. Un entourage composé de 4 personnes, dont des membres de sa famille, eux aussi surveillés par la DGSI. Et c'est grâce à cette surveillance qu'il a pu être interpellé. En fait, les agents du renseignement intérieur l'ont suivi quand il sortait de son hôtel. Il est sorti quelques minutes du périmètre auquel il était astreint par cette MICAS, cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. C'était hier après-midi au cœur de Paris. Et selon nos informations, les policiers ont en fait prétexté un défaut de port du masque pour le contrôler puis l'interpeller. À ce stade, il est donc en garde à vue pour des faits de droit commun. Et en ce qui concerne enfin le principal homme surveillé, il est lui sous le coup d'investigations plus poussées par les autorités françaises qui cherchent à déterminer précisément son lien avec les talibans.
Gladys Laffitte, merci Gladys pour ces informations du service police-justice d'Europe 1. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
On a besoin d'aller encore plus loin. Déjà, comment la France sélectionne les Afghans qu'elle fait entrer sur son territoire ?
Eh bien, concrètement, dans un pays où la menace terroriste est omniprésente comme l'Afghanistan, le nom d'un candidat à l'asile est d'abord soumis au service de l'ambassade de France à Kaboul, plus précisément à l'attaché de sécurité intérieure, c'est-à-dire aux policiers ou aux gendarmes en poste auprès de l'ambassadeur pour s'occuper notamment des liens avec la DGSI, le renseignement intérieur français. Ensuite, ce policier ou ce gendarme fait des vérifications au sein de l'ambassade, éventuellement auprès des services antiterroristes de pays partenaires. Il transmet également l'identité du demandeur d'asile au service de renseignement à Paris pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un terroriste, d'un criminel de guerre ou d'une personne recherchée.
Alors voilà comment ça se passe normalement. Mais Louis, avec l'Afghanistan, rien ne se passe normalement. Hein.
Et oui Romain, on a vu les images d'ailleurs du représentant de la France, David Martinon, qui a dû quitter il y a plusieurs jours l'ambassade sous lourde escorte pour rejoindre l'enceinte de l'aéroport de Kaboul. Il faut donc bien imaginer que l'ambassadeur de France travaille dans des conditions très rustiques et donc sans les moyens informatiques sécurisés et cryptés qu'on trouve habituellement dans une ambassade. Alors face à l'afflux des Afghans qui ont embarqué dès qu'ils le pouvaient dans des avions militaires français, des criblages, c'est-à-dire des vérifications d'identité et de parcours ont bien été effectuées, mais dans l'urgence, toutes les enquêtes n'ont pas pu être réalisées à fond. Décision a donc été prise par le gouvernement français de faire des contrôles plus approfondis à travers ce qu'on appelle des entretiens de sécurité lors de l'arrivée à Abu Dhabi puis à Paris. Des contrôles tardifs donc, faits par la DGSI qui croisent les identités des demandeurs d'asile avec les visages de talibans qui apparaissent sur les vidéos aux abords de l'aéroport de Kaboul. Et la crainte maintenant, c'est que certains puissent encore passer entre les mailles du filet.
Et pour les 5 Afghans, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Eh bien concrètement, après avoir été questionnés par les services de renseignement, ils sont sont suivis en permanence, de jour comme de nuit, par les policiers de la DGSI, depuis leur hôtel de Seine-Saint-Denis, où ils sont assignés à résidence. Tout est scruté, leurs échanges, leurs conversations et évidemment leurs déplacements. Ensuite, ils continueront d'être suivis, mais de manière moins soutenue, car il faut le dire, une telle surveillance demande des moyens extrêmement coûteux. Et le problème, c'est qu'en cas de rejet de leur demande d'asile, si ces Afghans doivent être expulsés, eh bien pour le moment, les autorités françaises se refusent de renvoyer un débouté du droit d'asile en Afghanistan, car le pays est en guerre. Et pour terminer, un chiffre. Plus de 90% des déboutés du droit d'asile ne quittent jamais la France pour rentrer dans leur pays.
Cinq Afghans, ces cinq Afghans suivis de jour comme de nuit par les policiers de la DGSI, nous dit Louis Dragnel. Merci Louis pour toutes ces informations. Cette information également du service police-justice d'Europe 1, on vous en parlait hier. L'homme de 56 ans qui a tenté de mettre le feu dans le Var et qui a été arrêté par des automobilistes a été mis en examen du chef de tentative de destruction de forêt. Il a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte. Il risque 15 ans de réclusion criminelle. Il est 12h41. Restez bien avec nous. Dans un instant, on ira à Marseille. On va appeler Samia Ghali. Je voulais avoir Samia Ghali au téléphone, maire adjointe de Marseille. Pourquoi ? Parce que le garde des Sceaux est à Marseille ce matin. Il a été, comme on dit, interpellé par un magistrat. Il dit qu'il a mis des moyens sur la justice. Est-ce que c'est assez ? On va entendre Samia Ghali. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h43, on est en direct avec Samia Ghali. Bonjour Samia Ghali.
Bonjour.
Maire adjointe de Marseille, le garde des Sceaux est à Marseille ce matin après les violences de ce week-end. Une visite qui était prévue avant. Hein. Il a été interpellé par un magistrat qui lui a demandé un plan Marshall, un plan avec de grands moyens pour l'enfance marseillaise et au-delà. Éric Dupond-Moretti a répondu que de réels efforts ont été consentis en termes de budget. Plus 21% au niveau national pour le budget de la justice, des personnels en hausse de plus de 16% à Marseille. Qu'est-ce que vous dites ? Ces moyens supplémentaires pour la justice marseillaise dont parle Éric Dupond-Moretti, est-ce que vous les voyez, Samia Ghali ?
Écoutez, moi je ne suis pas capable de parler des moyens en matière de justice. Seuls ceux qui la pratiquent peuvent en parler. Moi ce que je peux dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ce n'est pas en question de moyens, pas de moyens. C'est quelle volonté politique j'ai envie de parler.
Et vous doutez de sa volonté politique ?
Non, j'ai pas de doute quant à sa volonté politique, même je ne doute de personne et je ne veux pas en avoir d'ailleurs, parce que ça serait dramatique au vu de la situation dans laquelle nous sommes face à des cartels, face à des situations qui sont même plus des situations de combat pour récupérer de l'argent. C'est aujourd'hui dans des situations où des gens se disent, lui je vais buter parce que pourquoi il a réussi et pas moi. On est plus aussi dans la jalousie, dans quelque chose qui nous dépasse quoi. Donc voilà. Donc c'est c'est pour ça qu'il faut, sur la volonté qu'il aurait à vouloir faire les choses, moi je n'ai aucun doute. La vraie question c'est est-ce qu'on a vraiment la volonté politique de manière globale. Et moi, à la limite, le ministre de la Justice tout seul ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, d'avoir le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il faut discuter avec les pays étrangers, des ministres de la politique de la ville. Enfin, c'est d'avoir tout le monde autour de la table, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Je vous dis, on n'y arrivera pas, on peut se raconter ce qu'on veut. Si la justice travaille dans son côté, si l'intérieur travaille de son côté, si chacun travaille de son côté, on n'y arrivera pas. Il faut une approche globale. C'est pour ça que j'ai demandé le comité interministériel, parce que c'est le seul moyen de mettre tout le monde autour de la table et de réfléchir à des... et d'innover en matière de sécurité et je dirais d'anticiper. Il y a des générations, il faut se le dire, qui sont perdues. C'est une réalité parce que quand ils ont décidé de s'entretuer, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas à stopper cette hémorragie. Par contre, est-ce qu'on va laisser les nouvelles générations rentrer dans cet engrenage ? Moi, je dis non parce que vous avez vu que quand vous voyez qu'on filme maintenant des violences, les vidéos qui tournent, qui sont abjectes parce que c'est dur.
C'est glaçant. Désolant, oui.
Et voilà, on met un corps, on le brûle vif dans un véhicule. C'est-à-dire que la personne, elle s'est vue mourir. Enfin, je veux dire, moi, je ne veux même pas y penser. Ça donne de la chair de poule. Voilà. Et bien ça, je suis désolée, mais c'est pas la France, quoi. Ça ne peut pas être la France.
Merci beaucoup, Samia Ghali. Merci d'avoir été en direct ce matin, enfin, à la mi-journée, hein, dans Europe Midi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Vous allez peut-être poussez votre caddie ce matin pour aller faire vos courses ou pendant les vacances, est-ce que vous êtes dit, tiens, la facture a grimpé, c'est peut-être votre cas, Emmanuel Dutheil.
Bon, en tout cas, il faudrait être assez aveugle pour ne pas s'en
rendre
compte.
Les prix des fruits et légumes a augmenté. Les prix ont augmenté, d'autres produits pourraient également être concernés. Déjà, Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1, comment ça s'explique ?
Bien, déjà, on va regarder peut-être la hausse, hein, parce que quand on dit il faudrait être aveugle, il faudrait vraiment être aveugle parce que quand même, quand on regarde les fruits et légumes, c'est 20 à 30% de hausse. C'est vrai notamment pour les pêches, pour les nectarines, pour les abricots. Bah, la raison, Romain, elle est très simple, hein, c'est qu'on a moins produit à cause des conditions climatiques. On y pense moins, mais cette production en baisse va aussi faire augmenter les prix de tous les produits qui intègrent beaucoup de fruits. L'exemple le plus criant, c'est celui par exemple des confitures. Chaque pot va prendre quelques centimes de plus dans les semaines à venir. C'est ce que nous disait notamment le patron de Lidl hein, ce matin, qui était l'un de nos invités dans la matinale de Dimitri Pavlenko. On peut aussi citer l'exemple des pâtes. Là, c'est à cause de la production de blé qui a été moins importante. On estime qu'une hausse de 10% du prix d'un paquet de pâtes est attendue. C'est quand même très important. Alors là, vous allez peut-être me dire, il ne parle que de centimes, mais accumulé, ce sont des euros en plus sur un ticket de caisse. Surtout que ça va s'ajouter à des hausses dues cette fois à la pénurie de matières première venue de l'étranger. Même si ça devrait se résorber au début de l'année prochaine, il faut s'attendre donc à voir nos tickets de caisse progresser. Surtout que cerise sur le gâteau, si vous allez faire vos courses en voiture, bah là aussi, ça va vous coûter plus cher, puisque là aussi, pour tous ceux qui ont circulé cet été en vacances en voiture ou qui vont chaque jour au travail en voiture sans rendre compte, les prix du carburant sont à des niveaux extrêmement élevés en ce moment.
Effectivement, ça coûte une fortune de faire son plein. Dominique Schellcher, patron de Système U, merci d'avoir choisi Europe 1 pour parler à la mi-journée. Bonjour Dominique Schellcher. Vous entendiez Emmanuel Dutheil, plus 10% pour les pâtes, plus 20% pour le pot de confiture. Et comment ça va se passer chez Système U, Super U, Hyper U ?
Concrètement, on n'en est pas encore à la traduction de ces hausses à l'achat au niveau des clients. Nous sommes en train de discuter avec nos fournisseurs et je dirais aujourd'hui, pas de panique. Les choses vont progresser doucement, je dirais. Si vous voulez, rappelons tout d'abord que depuis le début de l'année, les prix dans la grande distribution française n'ont pas augmenté, voire ont même légèrement baissé. Et ça, c'est le travail de nos enseignes, de Système U en particulier, de faire l'amortisseur pour les consommateurs. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés de pouvoir d'achat de nombreux Français et nous ferons tout pour amortir ces hausses et prendre notre part. D'ailleurs, je vous donne un exemple, c'est vrai chaque année, les fruits et légumes, il y a des perturbations climatiques chaque année. Une fois ça va être un fruit, une fois ça va être un légume. Ce que nous pratiquons chez Système U, c'est par exemple de proposer à nos clients 5 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine. Ça veut dire que nous ne prenons pas de marge, nous acceptons la hausse auprès du producteur, nous lui payons plus cher, nous ne prenons nous pas de marge, comme ça le consommateur continue à avoir un produit au bon prix.
Est-ce que vous allez serrer la vis à vos fournisseurs, peut-être comme tous les autres distributeurs hein, dans la grande distribution ?
Alors, ce sont des discussions permanentes quand il y a un peu plus de tension que d'habitude. Ces discussions sont en cours avec les uns et les autres. Aujourd'hui, on n'en a pas le résultat. Et encore une fois, on saura faire la part des choses. Il y a des moments où il faudra accepter, mais encore une fois, on trouvera des solutions pour ne pas impacter grandement le consommateur. Ça, c'est notre premier objectif, évidemment. Je rappelle un chiffre l'année dernière. 10% de Français en plus ont demandé de l'aide alimentaire à toutes les associations qui s'occupent de cela. Ces clients sont aussi dans nos magasins. On pense à eux et on fera tout pour préserver également leur pouvoir d'achat. Donc, encore une fois, les discussions sont en cours.
C'est en cours. Merci beaucoup, Dominique Schellcher, patron de Système U, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi à vous. Restez bien avec nous dans Europe Midi, sur Europe 1, la rentrée dans les entreprises, en présentiel ou en télétravail. Et dans quelle proportion, pour l'instant, tout ça est un petit peu flou. Carole Ferry est déjà dans le studio, elle va nous éclairer. Restez bien sur Europe 1, on est bien ensemble, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h53, la rentrée, certains l'ont déjà pratiquée hein, depuis hier, d'autres la pratiqueront la semaine prochaine. Comment ça va se passer dans les entreprises ? Avec l'épidémie de Covid, évidemment, tout le monde se pose la question. En présentiel, en télétravail et dans quelle proportion ? Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Vous êtes avec nous et vous allez nous éclairer. Alors déjà, quelles sont les règles en cette rentrée?
Alors pour les fonctionnaires, la règle, elle est claire, hein, c'est au moins 2 jours de télétravail par semaine, pas plus de 3 jours en présentiel. Dans le privé, c'est simple, il n'y a plus de règles. Le gouvernement a donné la main aux entreprises, elles peuvent suivre les règles de la fonction publique, mais elles n'ont aucune obligation.
Alors, ça veut dire qu'une entreprise peut demander à ses salariés de revenir au 100% présentiel.
Tout à fait, même si c'est aussi un équilibre à trouver, selon le vice-président de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre.
Au regard de la loi, rien n'oblige une entreprise à décider de mettre en place du télétravail ou pas. Et elle peut tout à fait décider qu'il n'y ait pas de télétravail dans ses locaux. Mais cela étant, pour prendre une telle décision, il faut avoir de sacrés bons arguments, non pas à cause de la loi qui vous imposerait quoi que ce soit, mais à cause des salariés qui ont une attente très forte au développement du télétravail. Donc il faut trouver le bon équilibre entre l'aspiration des salariés à un télétravail et puis la réalité économique et d'activité de l'entreprise.
Voilà, trouver le bon équilibre entre ceux qui préfèrent travailler chez eux, ceux qui préfèrent travailler en entreprise.
Les besoins de l'entreprise également.
Et accessoirement, les besoins de l'entreprise. On y arrive. Si on regarde les grandes entreprises, quels choix font-elles?
Alors, c'est très hétérogène. Hein. Chez Total Energy, par exemple, c'est 3 jours de télétravail par semaine, mais ça pourrait changer à la rentrée, c'est en discussion. Chez AXA, les collaborateurs doivent être présents 2 à 3 jours par semaine, mais avec une jauge globale limitée à 50%. Cette jauge, elle a été supprimée chez L'Oréal. Tout le monde peut venir en même temps et seuls les volontaires travaillent de chez eux avec l'accord de leur manager. BNP Paribas, au contraire, va aller plus loin et tester l'ultra-flexibilité dans les services où c'est possible. 50 jours de télétravail par semestre à utiliser à sa guise. Côté gouvernement, eh bien, la question sera à l'ordre du jour les 1er et 2 septembre. Y aura-t-il alors de nouvelles règles? Tout dépendra bien sûr de la situation sanitaire.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. Tiens, et vous qui nous écoutez, vous préférez travailler chez vous ou travailler en présentiel? Vous pouvez nous
ou
le dire,
deux.
Tiens. Ou les deux, effectivement. Voilà dans quelle proportion c'est en train de s'organiser dans les entreprises. Un événement mondial va débuter dans quelques minutes à Tokyo. Attention, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. C'est pour ça que vous êtes avec nous, Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1. Des Jeux Paralympiques. Bonjour Simon.
Bonjour.
En plein Covid, ces Jeux Paralympiques, qu'est-ce que ça va changer, tiens?
Alors, vous savez que là, en ce moment, près de 200 contaminations hein, parmi les athlètes, les entraîneurs, les médias, les bénévoles de ces Jeux Paralympiques. C'est un nombre en constante augmentation depuis quelques jours. Ça laisse craindre le pire hein, du côté de l'organisation. On est assez inquiet. Du coup, tout le personnel évoluant dans le village olympique devra, par exemple, se soumettre à un test quotidien. C'était tous les 4 jours pour les Jeux, pour les valides. Et puis, les médias n'auront carrément plus le droit d'utiliser les transports publics ni de circuler librement dans Tokyo, même après une quarantaine de 14 jours. Et puis, évidemment, personne dans les stades.
À quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture?
Alors, elle va être assez similaire à celle qu'on a connue au mois de juillet, avec des danses contemporaines, le fameux spectacle de drones dans le ciel de Tokyo. Et puis les délégations qui vont défiler avec notamment le drapeau afghan malgré l'absence des 2 sportifs qui étaient attendus. Et ça, c'est vraiment l'histoire incroyable de ces Jeux paralympiques. Les 2 athlètes étaient coincés, vous connaissez le contexte, à Kaboul encore récemment. Ils ont réussi à être exfiltrés grâce notamment à des organisations sportives, à des ONG, à des avocats. Et Zakia Roudadadi et Hossein Rasouli sont maintenant partis d'Afghanistan. Ils sont dans une course contre la montre parce qu'ils espèrent bien arriver à temps à Tokyo pour participer aux Jeux.
Alors, qui sont les stars chez les athlètes paralympiques et notamment les Français?
Alors, rapidement, vous avez Marie-Amélie Le Fur. Elle est très polyvalente. Elle fait du sprint, du 400 mètres, du saut en longueur. 8 médailles déjà. Et ça a commencé pour elle aux Jeux de Pékin 2008. Stéphane Houdet, porte-drapeau, star du tennis fauteuil. Sandrine Martinet, l'autre porte-drapeau, la judokate, déjà 3 fois médaillée. Et puis surtout, ça va être l'intérêt de ces Jeux paralympiques, découvrir des nouveaux noms et derrière ces noms, des profils, des jeunes qui préparent 2024 avec un objectif de 35 médailles pour la délégation française.
Simon Rubin, merci beaucoup Simon. 12h57, la météo avec Anissa Haddadi. Le temps vire à l'orage dans le sud-est.
Oui, le ciel est en train clairement de changer d'aspect, Romain. En Provence, sur les Alpes, la Côte d'Azur et même jusqu'en Lozère, le temps devient lourd cet après-midi avec un ciel très couvert. Des Alpes jusqu'à la Méditerranée, nous aurons des pluies qui seront fréquentes. Les orages, eux aussi fréquents, mais localisés sur les montagnes. Et puis sur les Pyrénées aussi, nous aurons un temps qui devient de plus en plus menaçant au fil des heures. Alors sur le reste du pays, là ça y est, les grisailles matinales se sont dissipées partout. Le soleil domine prédomine sur l'ensemble de la France. C'est à l'est en fait, hein, en Franche-Comté et en Alsace, que les nuages résistent un petit peu plus et viendront de temps en temps masquer le soleil. Les températures, elles sont toujours bien contrastées entre le nord et le sud, avec seulement 21 degrés à Cherbourg cet après-midi, 22 pour Brest, 24 à Dijon et Clermont-Ferrand, 25 degrés à Paris sous le soleil, 26 pour Lyon, 27 à Bordeaux. C'est l'été dans le sud avec 28 degrés pour Bastia, 29 à Marseille et 30 la maximale pour Nîmes.
Merci Anissa. 12h58, dans un instant c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1. On se retrouve demain 12h30 pour Europe Midi.